Entretien avec le milliardaire et philanthrope Alexandre Mars. Lisez les questions ci-dessous et écoutez attentivement l'enregistrement sonore. Une seule réponse est correcte. Attention, chaque réponse incorrecte diminuera de 33% les points prévus pour chaque question. Moins 0,125. Cette diminution ne sera pas appliquée dans le cas des questions pour lesquelles vous ne donnerez pas la réponse. 0,375. Par réponse correcte, total 3 points.
Qu'est-ce qui retient chacun d'entre nous de donner davantage? L'avarice? Ou l'indifférence?
Ni l'un ni l'autre. Avant de lancer ma fondation, qui met en relation des philanthropes et des associations dignes de confiance, je suis parti à la rencontre de dizaines de personnes qui consacraient déjà une partie de leurs ressources aux autres. À la question « Pensez-vous avoir fait suffisamment ?», 95% d'entre eux répondaient non. Et quand je leur demandais pourquoi, les trois mêmes réponses revenaient sans cesse. D'abord, « Je n'ai pas confiance. » Car les gens s'interrogent sur la façon dont les associations caritatives gèrent l'argent. Puis, je ne sais pas vers qui me tourner. Les causes et les organismes sont nombreux. Difficile de s'y retrouver. Et enfin, je n'ai pas le temps de chercher. Ces arguments expliquent pourquoi on donne principalement à ce que l'on comprend bien. L'école de ses enfants ou l'hôpital local, par exemple. Et dans des proportions inférieures à ce que l'on pourrait se permettre.
Est-ce que l'État a anesthésié la générosité individuelle?
On m'a souvent dit « Je suis déjà un philanthrope, je paye mes impôts », avec cette conviction qu'il appartient à l'État d'organiser la solidarité. C'est bien commode de ne pas se considérer responsable du manque d'efficacité de l'action publique. À cela, je réponds en soulignant que même l'État le mieux organisé du monde ne pourrait faire face à tous les besoins.
Comment convaincre quelqu'un de mettre la main à la poche?
Les gens veulent choisir leur cause et leur organisme caritatif. Ils ont besoin d'être assurés que leur argent sera bien utilisé. Enfin, ils aiment sentir qu'ils contribuent à changer les choses. C'est pourquoi j'ai créé la Fondation EPIC, qui met en relation des donateurs avec des acteurs de terrain.
EPIC propose d'aider une vingtaine d'associations. Sur quels critères est-ce qu'elles ont été retenues?
D'abord, la cause défendue. Celle de l'enfance et de la jeunesse est celle que je préfère. Comment assurer la santé, la protection, l'éducation et l'accès au premier emploi des moins de 25 ans? Pour y répondre, il fallait d'abord repérer les structures les plus efficaces auprès des populations.
Il n'existe pas de rivalité entre fondations caritatives?
Entre personnes dont l'objectif est de rendre le monde meilleur, il y a rarement de problème. D'autant que notre objectif n'est pas d'accaparer les donateurs existants, mais plutôt d'augmenter leur nombre. Vous donnez déjà? Très bien, continuez. Si vous voulez y mettre plus ou faire davantage, nous sommes là. De plus, notre modèle est unique.
Tout cela a un coût. À combien se montent les frais de fonctionnement d'EPIC?
Je finance intégralement les salaires des 20 personnes de la Fondation, ainsi que son fonctionnement. De cette façon, toutes les sommes collectées vont aux associations. Cela me coûtera un peu moins de 2 millions de dollars cette année. J'ai certes gagné beaucoup, mais je ne suis pas non plus Bill Gates. C'est pourquoi j'ai créé la Fondation EPIC, qui me permet de collecter plus que ce que j'aurais pu verser directement. D'ici à la fin de 2016, EPIC devrait ainsi avoir redistribué entre 5 et 10 millions de dollars.
Aider son prochain, faire suffisamment, ces mots pourraient être ceux d'un homme de foi. La création d'EPIC a été guidée par un sentiment religieux?
Non, nous sommes aconfessionnels et apolitiques. Mes motivations sont humanistes et j'aimerais qu'elles soient plus partagées. C'est d'ailleurs pourquoi l'autre grand projet d'EPIC consiste à faire évoluer les mentalités.